7-9.
Bienvenue sur France Inter. Bonjour à tous. Nous sommes le vendredi 29 octobre. Bonjour Christelle Rebière.
Bonjour Jérôme. Bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, à E20, il représente 80% de la pollution de la planète. Le G20, sommet des 20 pays les plus riches, s'ouvre demain à Rome. Le réchauffement climatique sera au cœur des discussions. Prélude à la COP26. Les autres titres.
Les voitures électriques qui polluent le débat en Allemagne. Le syndicat IG Metall mobilise pour faire pression sur la future coalition. La construction de ces nouveaux véhicules risquent de faire disparaître 300 000 emplois. Dans ce journal aussi, alerte sur la drogue du violeur. Le GHB continue de se répandre dans les fêtes. Les premières parades apparaissent, vous l'entendrez. Il s'appelle Matthias Maurer. C'est le Thomas Pesquet allemand et il prendra la relève dans l'espace ce dimanche. Enfin, 7 millions de vues pour l'aveu inédit d'un joueur de foot professionnel. Le jeune Australien Josh Cavallo a pris le risque de révéler son homosexualité et il a reçu le soutien des meilleurs joueurs du monde.
Les invités et rendez-vous d'Inter ce matin, 7h45, le débat éco avec Thomas Piketty et Dominique Seux, l'avenir du nucléaire en France. 8h20, Facebook et ses dérives dans le grand entretien de la matinale. On en parle avec le sociologue Dominique Cardon, directeur du Media Lab de Sciences Po, spécialiste des questions numériques. Vos questions dès maintenant, 01 45 24 7000.
France Inter. Un conclave à Rome, mais pas au Vatican. Les représentants des 20 pays les plus riches de la planète se retrouvent dès demain pour le G20, de quoi se chauffer la voix et affûter leurs arguments à la veille de la COP26 à Glasgow. Il sera question de réchauffement climatique, de crise sanitaire et de relance économique. Bonjour Bruce de Galzin.
Bonjour.
C'est surtout la question climatique qui va occuper les discussions, car le G20 regroupe les pays les plus pollueurs.
Oui, parce qu'il faut rappeler que les pays du G20 produisent plus des trois quarts des émissions mondiales de gaz à effet de serre. C'est donc là, en grande partie, que se jouent les véritables enjeux. Mario Draghi, le président du G20, mais la France également, insiste pour qu'un accord soit trouvé dès ce week-end, car les Sherpas, les conseillers diplomatiques des présidents qui préparent les grands sommets, sont inquiets. La situation est complexe, nous ont-ils répété en langage diplomatique. Cela veut dire que c'est grave. En fait, plusieurs pays ne seraient pas crédibles dans leurs engagements. Depuis la COP21 et l'accord de Paris, tous les 5 ans, les États doivent réviser à la hausse leurs engagements, leurs contributions nationales à la lutte contre le changement climatique, s'engager à la neutralité carbone, à sortir du charbon, mais tous ne le font pas ou s'engagent peu.
Et qui ne joue pas le jeu ?
Plusieurs pays sont pointés du doigt, comme l'Inde ou l'Australie, le premier exportateur de charbon qui ne prend pas d'engagement concret, reste vague, comme la Chine aussi, responsable d'un quart des émissions de gaz à effet de serre, qui modifie à la marge ses engagements, ce qui ne permettra pas de limiter à 1,5 degré le réchauffement climatique comme s'y était engagé la COP21. Selon l'ONU, au rythme où l'on va, pour l'instant, c'est un réchauffement de 2,7 degrés qui se dessine.
Bruce de Galzin, Vladimir Poutine brillera par son absence, ou encore le Premier ministre japonais. Quant à Xi Jinping, il sera présent à distance en vidéo. Le président chinois n'a plus quitté son pays depuis le début de la crise du Covid il y a presque 2 ans. Et pour moins polluer, l'industrie automobile est en pleine mutation vers l'électrique. En Allemagne, le tout puissant syndicat IG Metall s'inquiète de la casse sociale à suivre, car il faut moins de main-d'œuvre pour fabriquer ces véhicules. À cela s'ajoute la pénurie des semi-conducteurs. Une grande journée de mobilisation a lieu aujourd'hui à Eisenach, dans le Land de Thuringe, car l'Opel Grandland X du groupe Stellantis sera fabriqué désormais en France, à Sochaux. Et en signe de solidarité, des syndicalistes français feront aussi le déplacement tout à l'heure. Franck Plein est le délégué CGT de l'usine.
Pendant que les usines sont surchargées de travail, comme à Sochaux par exemple, avec l'annonce de tous les samedis travailler jusqu'à fin novembre et en décembre, les travailleurs d'Eisenach, eux, ils sont au chômage pour plusieurs mois, avec toutes les incertitudes que ça suppose sur une éventuelle reprise après. Et que ce soit à Eisenach, que ce soit en Chine, que ce soit au Maghreb, que ce soit en France, que ce soit ailleurs, on fait partie du même groupe, on fait partie du même camp des salariés à qui la direction de Stellantis veut faire payer et supporter toutes les conséquences de son organisation du travail. La pénurie des semi-conducteurs, on n'y est pour rien. D'autres pièces, pareil, c'est pas nous qui organisons la production. Il n'y a aucune raison, que ce soit des salariés qui supportent sur leur paye avec le chômage, et puis d'autres qui le supportent sur leur santé, dans leur chair, en trimant 6 jours sur 7.
Un témoignage recueilli par Christophe Beck.
À l'inverse, l'aérien semble sortir du trou d'air suscité par la pandémie.
Air France KLM dévoilera dans une demi-heure ses résultats pour le troisième trimestre qui concerne donc les vacances d'été et visiblement, Philippe Lefebvre, si l'on est encore loin des chiffres de fréquentation de 2019, il y a quand même des points positifs.
La reprise est certes encore lente, mais force est de constater que le groupe Air France KLM a retrouvé l'été dernier une partie de ses passagers, essentiellement sur les vols intérieurs et moyens courriers européens. Les destinations lointaines étant encore fermées totalement ou partiellement, reconnaît Anne Rigaille, la directrice générale d'Air France.
L'été s'est passé selon nos prévisions, donc à peu près 62% d'activité, mais avec des coefficients de remplissage un peu en dessous de notre référence qui est 2019. Ça va en tout cas redémarrer plus fort avec la réouverture des États-Unis à partir du 8 novembre, qui est une bonne nouvelle pour nous puisque les États-Unis c'est quand même 40% de notre activité. Et pour le reste, l'Asie reste déprimée pour probablement de longs mois. Et donc oui, ça participe en tout cas de la chute de chiffre d'affaires la plus lourde.
En revanche, Transavia, la filiale low cost du groupe, se porte bien puisqu'elle a retrouvé cet été sa fréquentation d'avant la crise, explique Nicolas Hénin, le directeur commercial de la compagnie.
On est revenu à 100% et à nouveau sur l'été 2022, donc à partir du mois d'avril, on va avoir une marge de croissance assez importante avec 61 avions dans notre flotte.
Enfin, depuis le début de la crise sanitaire qui a conduit à l'explosion du commerce en ligne, un secteur ne cesse de progresser, c'est celui du fret. Il représente aujourd'hui 20% des revenus d'Air France contre 8%. Avant la crise.
Mais dans l'ensemble, la filière aéronautique reste encore sous perfusion. Le gouvernement débloque 3 millions d'euros pour aider 150 PME qui travaillent en sous-traitance pour Airbus. Le gouvernement qui prépare, par ailleurs, un hommage national aux 118 000 victimes du Covid. C'est une information France Inter. Cérémonie, journée annuelle, mémorial, toutes les options sont à l'étude en ce moment. Quant à la date, peut-être en mars, 2 ans symboliquement après le confinement. Nous y reviendrons avec Simon Le Baron dans le journal de 8 heures. L'extension du pass sanitaire, elle, a été revue et corrigée par les sénateurs. Hier soir, ils ont voté le principe d'une clause de revoyure au 28 février, alors que le gouvernement veut le prolonger jusqu'au 31 juillet 2022 et ainsi enjamber l'élection présidentielle. Il y aura donc une seconde lecture au Parlement. Il va falloir retrouver la terre ferme. C'est l'heure de la relève à 400 km au-dessus de nos têtes. Thomas Pesquet et son équipage vont rentrer après 6 mois en apesanteur. Parmi les 4 astronautes qui vont prendre leur place dans l'ISS, Matthias Maurer, à 51 ans, cet Allemand francophile réalise sa première mission et il est déjà en pleine émotion métaphysique, Sophie Becherel.
Matthias Maurer a choisi de baptiser sa mission Cosmic Kiss, le baiser cosmique, comme il l'a expliqué à notre correspondant à Berlin, Ludovic Piétenu.
C'est une déclaration d'amour pour l'espace, parce que je trouve tous les gens sont fascinés par l'espace. On regarde le soir les étoiles et on se demande les mêmes questions depuis toujours. Comment est-ce qu'a été créé l'univers? Comment la vie est arrivée sur la Terre? Et est-ce qu'il y a de la vie sur notre planète, quoi?
Sélectionné en 2015 par l'Agence spatiale européenne, Matthias Maurer est originaire de la Sarre. Il a étudié en Grande-Bretagne, en Espagne et à Nancy le génie des matériaux. Voilà pourquoi il se sent surtout européen. Sera-t-il aussi assidu aux réseaux sociaux que Thomas Pesquet? Il veut en tout cas partager son expérience.
Dans ma mission, je veux amener les gens, je veux aider à faire rêver cette rêve d'être astronaute et de regarder notre planète de l'extérieur.
À bord du vaisseau Crew Dragon de SpaceX, ils seront 3 sur 4 à vivre leur premier décollage. Matthias Maurer ne peut donc qu'imaginer ce qu'il attend.
Pendant 10 minutes, il y a l'accélération pure. 28 000 km par heure. C'est une accélération énorme. Et après les 9 minutes, le moteur s'arrête et moi, je suis sans gravité. Je flotte dans l'espace. Et puis, la rêve commence.
Après sa mission de 6 mois, l'ISS accueillera une autre européenne, l'italienne Samantha Cristoforetti.
Voilà, Thomas Pesquet, lui, devrait rentrer aux alentours du 6 novembre. Matthias Maurer, qu'on entendait à l'instant, décollera dimanche matin à 7h30 avec la capsule Crew Dragon. Il échappera donc au changement d'heure. N'oubliez pas de changer vos montres à 3h du matin. Dimanche, il sera 2h. Ça veut dire 1 heure de sommeil en plus, 1 heure de soleil en moins. Ce sera donc Meta, c'est le nouveau nom du groupe de Mark Zuckerberg qui réunit Facebook, Instagram, Messenger et les casques de réalité virtuelle Oculus. Meta, comme le métaverse, se ce monde parallèle virtuel vers lequel il rêve de nous emmener. Le conflit de la pêche entre appel au calme et nouvelle escalade. L'Angleterre convoque l'ambassadrice de France à Londres en réponse aux menaces de rétorsion de la France. Les Britanniques affirment avoir accordé 98% des demandes de licence de nos pêcheurs, alors que la France parle seulement de la moitié.
France Inter, 7h09, le danger de perdre tout sens de la réalité. L'inquiétude monte autour du GHB.
Oui, le GHB, surnommé aussi la drogue du violeur, c'est un psychotrope puissant versé subrepticement dans des verres lorsque des jeunes font la fête. On vous en parlait en début de semaine sur France Inter, puisqu'une enquête a été ouverte à Grenoble dans l'école de management. 12 signalements ont déjà été transmis au parquet dans 3 autres établissements. Les témoignages se multiplient sur les réseaux sociaux et à chaque fois, c'est le même scénario. Illustration à Montpellier, Julien Morcelli.
Nous sommes le 14 octobre dans une boîte de nuit. Maë, 19 ans, étudiante à l'université de Montpellier, se filme en train de danser avec ses amis.
Et d'un coup, en fait, ma tête elle s'est mise à tourner. Et là, j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Je me suis sentie bizarre, prise un peu de vertige. Et même dans les escaliers, en fait, je ne sentais plus trop mes jambes, mes mains, mes bras. Ça aurait pu mal tourner parce que j'étais prête à recevoir l'aide de n'importe qui, en fait.
L'expérience de Maë n'est pas un cas isolé, comme en témoigne Edgar Bruel, le président de l'Association Générale d'étudiants Montpellier-Rhin, qui a lancé, début octobre, un appel à témoignages sur les réseaux sociaux.
La plupart du temps, en fait, les étudiants n'ont pas remarqué le moment où ils ont été drogués. Ils commencent à se sentir mal, extrêmement fatigués. On pensait que ce serait en grande majorité des boîtes de nuit. En fait, c'est beaucoup de bars.
Des bars qui, pour protéger les verres de leurs clients, proposent désormais des couvercles réutilisables. François Multier, le directeur du Kraken Bar à Montpellier.
Donc c'est une espèce de silicone que l'on va venir étirer sur le dessus du verre. Et il y a juste un petit espace de façon à pouvoir glisser une paille. Et en plus de ça, nous avons une table derrière où on peut justement mettre les verres des personnes qui souhaitent aller fumer à l'extérieur.
Les capuchons sont vendus 1€ pièce au comptoir et distribués gratuitement sur le campus par 25 associations étudiantes montpelliéraines.
Un reportage Julien Morcelli. La perpétuité confirmée en appel contre Sid Ahmed Glam. En son absence, l'étudiant algérien jugé pour le meurtre d'Aurélie Châtelain et pour un attentat avorté contre une église à Villejuif n'était pas présent à l'audience en état de stress. Il a refusé de sortir de sa cellule. Quelques secondes pour lutter contre l'omerta et être enfin lui-même. Il a fallu un courage immense au joueur de football australien de 21 ans, Josh Cavallo, pour prononcer ces mots face caméra, gorge nouée.
There's something personal that I need to share with everyone. I'm a footballer and I'm gay.
Je suis un footballeur et je suis gay. C'est la première fois qu'un joueur professionnel en exercice dans le monde ose ainsi se dévoiler. Et depuis, eh bien, il est submergé par les messages de soutien Sixtine Lys.
Tu es un champion, le football est pour tout le monde, réagit Zlatan Ibrahimovic. Ça demande beaucoup de courage, témoigne Raphaël Varane. Je suis fier de toi, répond Antoine Griezmann après la publication de la vidéo de Josh Cavallo visionnée 7 millions de fois en 24 heures.
Je pensais qu'on me verrait différemment, qu'on me traiterait différemment, mais ce n'est pas le cas. Faire mon coming out à mes proches, à mon équipe, à mes coachs a été incroyable.
Peu de footballeurs professionnels se sont déclarés publiquement homosexuels. Ils attendent en général d'arrêter de jouer pour ne pas mettre en danger leur carrière. Johan Lemaire, président et fondateur de l'association Foot Ensemble, intervient dans les collèges, lycées et clubs pour parler d'homophobie. Il souligne l'importance des exemples.
On voit que ça évolue, on voit que les jeunes sont à l'écoute. Néanmoins, on sent toujours quelques jeunes qui se braquent avec le sujet. Et là, le fait d'avoir de l'exemplarité d'un joueur qui annonce son homosexualité et qui est soutenu par des grandes stars ou par des clubs, ça démontre que voilà, le sujet n'est plus mis sous le paillasson, on en parle et c'est important d'ouvrir ce sujet.
Johan Lemaire qui aimerait voir ces grandes stars du football ou la FIFA prendre position sur la question de l'homophobie à l'approche de la Coupe du Monde au Qatar.
Et laissons le dernier mot à Josh Cavallo, nous sommes en 2021, il est temps de changer cela dans le football.
Christelle Robière pour le journal. Dans 3 minutes, secret d'info dans les coulisses de la cellule Déméter, censée protéger les agriculteurs.